Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.
Il est 6 heures avant minuit, vous écoutez l'émission d'actualité locale de Syllabe. Nous sommes le mardi 11 février, quelle bonne idée de nous rejoindre. Syllabe vous propose un nouveau jeu concours. Vous pouvez gagner 2 places pour la Rennes Boxing Night. Ça se passe le samedi 22 février prochain à 19h et ça se déroule salle Colette Besson à Rennes. Ce super gala de boxe anglaise est organisé par le groupe sportif boxe anglaise du cercle Paul Bert, premier club en nombre de licenciés d'Ille-et-Vilaine. Et oui, pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe que je vous donne maintenant. Le mot de passe, c'est Ring, obligé. Pour jouer, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'Eva.
Menaces et douanes. Voilà un petit avant-goût, ou plutôt arrière-goût bien amer que Donald Trump a laissé dans les bouches du monde entier aujourd'hui. En ce qui me concerne, si tous les otages ne sont pas ramenés d'ici à samedi midi, je dirais annuler l'accord de cessez-le-feu et qu'un véritable enfer se déchaîne. Une phrase aiguisée qui fait suite à l'annonce du Hamas aujourd'hui de reporter la libération de prisonniers israéliens à Gaza qui était prévu pour samedi prochain. Dans ce même communiqué, Abu Obeida, le porte-parole de Hamas, explique que Israël retarde le retour des déplacés de la bande de Gaza en les ciblant par des bombardements et tirs. Il ajoute que la porte reste ouverte pour la libération des otages. De son côté, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a appelé son armée à se préparer à tous les scénarios. Avant ça, hier, le président des États-Unis a signé un décret imposant à partir du 12 mars des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium pour tous les pays. Une phrase, cette fois, qui a caressé dans le mauvais sens du poil la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En effet, elle a réagi aujourd'hui en appelant l'UE à prendre des contre-mesures fermes et proportionnées face à ce changement majeur. Goma, Nord-Kivu, Sud-Kivu, les zones de l'Est du Congo tombent une par une face aux combats violents qui font rage entre l'armée congolaise et le groupe armé M23 et ses alliés rwandais. Un cessez-le-feu immédiat avait été appelé par les chefs des pays d'Afrique australe et de l'Est lors du sommet régional en Tanzanie samedi dernier. Le sommet conjoint a réaffirmé la solidarité et l'engagement inébranlable de continuer à soutenir la RDC dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, explique le communiqué final. L'ouverture de couloirs humanitaires a également été appelée pour évacuer les blessés et les morts de l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ou plutôt le non-anniversaire, de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Hier soir, partout en France, étaient organisées des mobilisations pour demander une meilleure application de cette loi. Le 11 février 2005, après plusieurs années de travail et l'intervention du président de l'époque, Jacques Chirac, cette loi historique nourrissant les espoirs aboutissait enfin. Mais force est de constater que peu de choses en 2 décennies ont bougé. Alors place de la République, à Paris, des anonymes et des personnalités en situation de handicap, dont l'athlète Philippe Croizon, ont pris la parole. Et même place, mais cette fois à Rennes, AFP France Handicap d'Ille-et-Vilaine, association réunissant des personnes en situation de handicap, leurs familles et les personnes valides, avaient prévu danse, prise de parole et café chaud. Mais aussi et surtout une action symbolique. Passer la nuit dehors. Selon un communiqué, l'association explique l'objectif de l'action. Montrer que la non-application des lois et le manque de financement conduisent les personnes en situation de handicap à dormir dehors, faute de solutions adaptées. Dans son dernier rapport, la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Fondation Abbé Pierre, a fait ses calculs. L'ensemble des problèmes de logement, comme la privation de confort, touche 24% des ménages comprenant une personne en situation de handicap ou de gêne. Mais il ne s'agit pas uniquement de ça. L'accès à la culture, à l'école, au transport, aux soins est aussi une problématique. Tout comme l'accès à un travail. À ce sujet, la loi de 2005 était censée obliger les entreprises de plus de 20 salariés à employer des personnes en situation de handicap. Mais selon l'Observatoire de l'emploi et du handicap, près de 7 recruteurs sur 10 estimaient en 2022 qu'il était difficile d'employer ces dernières. Le 27 janvier, dans un communiqué d'APF Ille-et-Vilaine, Pascale Ribes, présidente de l'association nationale, était citée. Nous estimons que nous vivons aujourd'hui un apartheid social. Nous avons le sentiment d'être au pied d'un mur, un mur d'inaction, un mur d'exclusion, un mur de ségrégation et de discrimination. Nous demandons la justice sociale, pas la charité. Nous vous demandons le strict respect de nos droits, ni plus ni moins. Alors il est grand temps d'abattre ce mur.
Mais alors Aglaé, qu'est-ce qui est fait pour améliorer cette situation ?
Eh bien aujourd'hui, deux députés, Sébastien Saint-Pasteur, socialiste, et Antoine Vermorel, républicain, proposent une grande loi sur le handicap. Le texte proposé vise notamment à ce que les personnes en situation de handicap ne restent pas sous le seuil de pauvreté et que les démarches pour reconnaître leur handicap soient facilitées. Une mission lancée par des députés a aussi été lancée afin d'évaluer les points positifs et négatifs de la loi handicap. Sébastien Peytavi, le co-directeur de cette mission, avait fait voter il y a 2 mois un texte pour rembourser intégralement les fauteuils roulants.
Et il y a 5 jours, dans une vidéo TikTok, Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir du 1er décembre, les fauteuils roulants seront remboursés à 100%, je cite, comme promis. Cela reste à voir. Et à Rennes, Aglaé était à la mobilisation, donc on aura un petit reportage.
Effectivement.
Une France corrompue, ou plutôt le 25e pays le plus corrompu dans le classement mondial sorti aujourd'hui par l'ONG Transparency International. L'indice de perception de la corruption, IPC 2024, montre que la France, je cite, « risque de perdre contrôle de la corruption ». Alors que le pays français stagnait à la 20e place depuis 10 ans, l'ONG explique que « depuis 2017, 26 ministres ont été impliqués dans des affaires politico-judiciaires ». La mise en examen récente de figures clés du gouvernement, Alexis Kohler, Rachida Dati.
Ah, la toux du jour.
She's back.
Traduit l'affaiblissement des principes d'exemplarité au sein de l'exécutif, en notant d'ailleurs le procès de Nicolas Sarkozy et des financements libyens. Enfin, l'association, je cite, exhorte le gouvernement français à répondre à cette crise en prenant d'urgence des mesures transpartisanes dans la lutte contre la corruption et les atteintes à la probité. 4 nouvelles personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui par la police en Essonne dans le cadre du meurtre de Louise. Morte samedi dernier, l'enfant de 11 ans a été retrouvé par un chien pompier dans les bois d'Essonne sans la trace du coupable. Aujourd'hui, un homme de 23 ans, suspecté selon la qualification juridique en vigueur de meurtre sur mineur de moins de 15 ans, ainsi que de 3 personnes de son entourage mises en cause pour non-dénonciation de crime, a annoncé le parquet d'Evry dans un communiqué. Cet après-midi, l'ADN du principal suspect a bien été retrouvé sur les mains de la victime, selon les dernières annonces du parquet. Jeudi 30 janvier à 19h, c'était la soirée de lancement du projet Le Défilé Fantastique au Triangle. Le Défilé Fantastique, ce sera une parade XXL, chorégraphique et musicale dans les quartiers sud de Rennes le 14 juin. CELAB s'est rendu au premier rendez-vous de cette aventure artistique, urbaine et humaine tournée vers le hip-hop.
Watercrew plongé pour la danse, et c'était un petit peu la volonté de lancer ce défilé fantastique et chorégraphique et musical en plein Watercrew. Donc ça y est, c'est le plongeon là en fait.
Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a plein de questions. Moi, c'est les moments que je préfère dans les projets, surtout de cette envergure là.
Patrice Lefloc, directeur du Triangle Cité de la Danse de Rennes, et Bruce Chiffard, danseur rennais et meneur du projet, nous expliquent ses enjeux.
Nous, vraiment, c'est de mettre en valeur le quartier, c'est que tout le monde puisse y participer et contribuer. C'est imaginé par nous, mais c'est pour tous ceux qui voudront y participer et prendre du plaisir.
Et cela grâce au breakdance.
L'idée, c'était de ne pas oublier que le break et le hip-hop, c'est une pratique qui fédère, qui se pratique dans l'espace public, pour tout le monde. On vient comme on est, on peut pratiquer. On est différents, mais c'est ça la force. Et de défiler tous ensemble avec nos différences pendant une heure avec une chorégraphie sur une ambiance festive, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Souvent, on commence les ateliers avec des amateurs. Et souvent, c'est des choses qui nous dépassent après que les amateurs s'approprient. Et ça, c'est beau avoir ce contact. construire et c'est beau à faire.
Cette parade se tiendra au sud de la métropole.
Ce qu'on a souhaité aussi, c'est avoir un défilé de la périphérie à la périphérie. On a réfléchi, on s'est dit pourquoi pas aller en centre-ville et venir jusqu'au Triangle. Mais en fait, ce qui était important pour nous, c'était vraiment d'occuper ces espaces. On se rend compte de la richesse aussi de ces territoires où culturellement, il ne s'est jamais passé ce type d'événement et c'était aussi l'enjeu d'être à cet endroit-là.
Et pour celles qui voudraient participer, mais plutôt en coulisses, c'est possible grâce aux différentes commissions.
Commission cuisine, parce qu'il y aura un temps convivial qui sera proposé le jour J. Il y a également une commission couture, une commission également pour customiser le char.
Customiser les chars, un projet de territoire XXL, quoi. Donc à tous les endroits, tout le monde pourra y participer selon ses compétences, selon ses envies.
Et le public est déjà conquis.
De participer, ouais, parce que le projet il est très ouvert. Et pour Chiffard, j'aime bien ce qu'il fait.
Ah, je m'inscris pour la danse. Je pense venir tous les lundis. Ça m'intéresse vraiment de participer à ce projet-là, de faire un projet, le projet collectif, quoi, de vivre l'aventure pendant quand même pas mal de séances avec plein de personnes inconnues. Moi, j'adore.
L'ambiance du truc a l'air folle.
Ouais. Franchement, on va bien s'amuser. Ouais.
Merci Gwen pour ce reportage. Et les inscriptions sont ouvertes, alors n'hésitez pas à contacter le Triangle. Que ce soit pour danser, créer les costumes, cuisiner ou être bénévole le jour J, vous aurez toute votre place dans cette fantastique aventure. Le premier atelier chorégraphique sera le 4 mars, sinon réservez votre 14 juin. Et vous aurez très bientôt des nouvelles sur l'avancée de ce projet, toujours dans 6 heures avant minuit. Ce midi, plusieurs centaines d'étudiants et étudiantes des universités rennaises défilaient dans les rues. La manifestation avait lieu pour protester contre les réformes budgétaires austéritaires liées à l'université et la potentielle mise sous tutelle de Rennes 2. Partant de ce campus, le cortège est passé par celui de la santé et de la fac d'éco avant d'arriver au rectorat. La manifestation, empêchée par la police nationale, n'a pas pu se rendre dans le centre-ville. À plusieurs reprises, le cortège de manifestants et manifestantes a été chargé par les forces de l'ordre. Sur Instagram, le syndicat Union Pirate a déploré l'interpellation arbitraire d'un membre de l'Union Pirate Rennes 2. Plus tard dans l'après-midi, sur la même plateforme, l'organisation a déclaré que des tirs de grenades lacrymogènes ont eu lieu sur le campus de Rennes 2. Et de suite à la tentative de blocage de l'avenue Gaston-Berger adjacente du site, ainsi que l'occupation du secteur CHU dans la rue, dont la rue Couette-Logon. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu'on l'est ado? Si vous êtes parent débordé ou petite Adelphes martyrisée, Cyrienne, par son aîné, vous êtes sûrement déjà posé la question. Ce soir, Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives à l'Université Paris-Descartes, tentera de vous donner les réponses. Rendez-vous à 20h30 à l'Auditorium des Champs Libres pour 2 heures de conférence, suivie d'une séance de dédicaces. Le professeur présentera son livre « C'est pas moi, c'est mon cerveau ».
Merci Eva pour ce flash presque sans tout. C'est l'heure de l'interview avec Aglaï ce soir.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Lunettes marron et foulard, aux couleurs automnales que vous avez enlevées. Ce soir, nous recevons Anne-Cécile et Steve. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes artiste photographe, c'est ça ?
Oui.
Et donc ce soir, vous venez nous parler de votre projet À vos amours. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît ?
Alors, le projet À vos amours, c'est un projet photographique. Et l'idée, c'est de photographier Rennes à travers ses histoires d'amour.
Et comment est-ce que cette idée vous est venue ?
Alors, elle m'est venue, le démarrage, je ne sais plus trop. En tout cas, elle est venue à un moment où là, on vient d'écouter les infos à l'instant. Et on sait que tout est très sombre en ce moment. Et en fait, moi, j'avais envie de me faire du bien. J'avais envie de travailler sur un projet qui me fasse du bien, en me disant que si ça me faisait du bien, ça allait faire du bien à d'autres personnes aussi. Et dans mon travail, j'explore l'intime. où j'avais fait un premier projet avec les Tombées de la Nuit où j'allais photographier des gens au réveil chez qui je dormais, des gens que je ne connaissais pas. Et donc là, j'ai eu envie d'explorer l'histoire d'amour dans la ville, de manière à peut-être aussi réancrer la rencontre dans la ville, et puis faire le lien, faire une sorte de carte du tendre, de carte sensible, à travers ce prisme d'amour amoureux. Je précise que c'est l'amour amoureux et pas l'amour filial ou autre chose.
Vous avez parlé à l'instant de carte du tendre, vous en parlez aussi sur la présentation de l'exposition. Est-ce que ça a un quelconque rapport avec une histoire romaine de Madeleine de Scudéry ou absolument pas ?
Absolument pas.
Ok, pardon.
Tu peux nous expliquer la ref ?
Alors, j'ai pas complètement la ref, mais c'est une carte où il y a tous les sentiments par là où on doit passer, ce qui est autorisé, pas autorisé, enfin ça. C'est un texte qui date, donc voilà, mais ça m'a fait penser à ça directement.
Et
effectivement. Mais c'est très loin, Madeleine de Scudéry, donc ne vous embêtez pas. Et donc, vous avez parlé des rencontres amoureuses. C'est un concept qui change beaucoup en ce moment, depuis quelque temps d'ailleurs, avec les applications de rencontres, etc. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça, ou qu'est-ce que vous en pensez ?
Par rapport aux applis ?
Par rapport aux rencontres amoureuses de façon générale.
J'ai pas vraiment d'avis. Je me rends compte là, donc j'ai récolté une quarantaine d'histoires. Et c'est vrai que beaucoup de rencontres se font sur les applis aujourd'hui, mais voilà, j'ai pas tellement. J'ai pas tellement d'avis sur la question de l'appli. Après, je récolte des histoires de rencontres amoureuses, mais aussi des histoires d'amour. C'est pas juste. J'avais envie d'axer un peu ça sur la rencontre, mais c'est plus large. Le projet est finalement plus large que la rencontre amoureuse.
Et le vendredi 31 janvier, si je ne me trompe pas, il y a déjà des gens qui sont venus vous voir pour vous parler de leur rencontre ou de leur histoire d'amour. Est-ce qu'il y a déjà une histoire qui vous a particulièrement touchée, marquée ?
Oui, alors il y a eu plusieurs permanences. Mm-hmm. En fait, les permanences ont commencé début novembre. Je ne sais plus combien il y en a eu, peut-être 8 ou 9. Oui, il y a pas mal d'histoires qui m'ont marquée. Il y en a une particulièrement, c'est d'une personne qui doit avoir 70 ans et qui a été amoureux toute sa vie d'une femme. Ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents, donc il est amoureux de cette femme, mais il ne lui a jamais déclaré sa flamme.
Wow.
Et ça reste un peu comme un amour... fantasmé, enfin en tout cas un amour, voilà, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont pas vus pendant 50 ans, la dernière fois qu'ils se sont vus c'était à 25 ans, et il y a un an ou deux ils marchaient à l'endroit où ils avaient l'habitude de se retrouver quand ils étaient ados, et puis et à un moment de dos devant lui, je sais pas, à quelques dizaines de mètres devant lui, il voit une vieille dame marcher de dos et il se dit, je suis sûre que c'est elle. Et donc, en fait, il fait le tour du pâté de maison pour se retrouver face à elle et pour qu'ils se retrouvent face à face comme ils le faisaient quand ils étaient ados. Et effectivement, c'était elle. Donc, ils sont allés boire un café, etc.
Wow.
Mais il n'a pas pris son numéro pour autant. Mm-hmm. Et voilà. Et depuis 50 ans, ça fait... Enfin, il pense à elle toutes les semaines. Il me dit, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je pense à elle. Mais il n'a jamais voulu que l'histoire se fasse, en fait. Enfin, que l'histoire amoureuse se fasse. Donc, c'est resté comme ça dans son esprit, un peu comme un fil rouge. Et voilà, je trouve ça très beau, cette histoire, je sais pas, manquée.
Oui, c'est très beau, effectivement. C'est très, un peu triste aussi, en même
temps. Oui, bah oui, mais c'est, voilà, c'est très beau au niveau... Enfin, c'est romanesque, en tout cas.
Effectivement. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous allez retranscrire ces témoignages, entre guillemets, en œuvre d'art ?
Alors, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Et donc, pour moi, c'est un projet qui est un peu challengeant parce que je suis plutôt portraitiste dans ma façon de... Enfin, je fais beaucoup de portraits en photo. Et pour ce projet-là, j'ai vraiment envie de photographier la ville. C'est-à-dire que j'ai essayé de photographier des gens, j'ai repris contact avec des personnes qui ont témoigné et j'ai voulu les photographier sans qu'on reconnaisse forcément leur, enfin qu'on voit forcément leur visage. Et je sais pas, il y a un truc qui fait que ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. J'ai vraiment besoin et j'ai envie de photographier des lieux de manière un peu poétique, sensible. Et donc je suis en pleine exploration. Donc j'essaye différents supports photographiques et voilà, je teste en ce moment. Donc pour l'instant, je peux pas tellement en dire plus, mais j'explore ça. Et ensuite, pour l'exposition, il y aura donc... là, je suis en train de retranscrire les histoires. Et donc, il y aura des bribes d'histoires ou des morceaux. Voilà, je vais sélectionner dans chacune des histoires, en tout cas pour celles qui seront exposées. Et donc, chaque personne que je rencontre, à chaque fois que je rencontre une personne, je demande si il ou elle a un lieu qui peut raconter cette histoire, ou en tout cas un lieu en lien avec l'histoire. Et donc voilà, donc j'ai toute une liste de lieux à photographier et pareil, je me balade en ce moment, enfin je commence à me balader. Et d'ailleurs, c'est assez chouette de se balader dans Rennes avec ces histoires d'amour en tête. Je traverse la ville différemment, je pense.
Ah oui, donc le but, c'est vraiment de cartographier, entre guillemets, la ville à travers ses histoires.
Oui, c'est vraiment ça, ouais.
Ok. Et, ah oui, donc vous en avez beaucoup parlé, enfin, en partie, mais votre travail se tourne beaucoup vers l'humain. Vous avez évoqué votre travail précédent sur le réveil. Pourquoi est-ce que vous aimez tant travailler avec les gens?
Avec l'humain. Pourquoi j'aime tant travailler avec l'humain? Je sais.
Question piège.
Je crois que c'est vraiment ce qui me fait vibrer en photo, et puis ça me permet aussi de Là, ce projet, le projet des photos de réveil de Métamorphée, c'est pas un bon exemple parce que en fait, ça me permet d'accéder aux gens, ça me permet d'accéder à leur histoire, ça me permet de découvrir leur univers, ça me permet qu'ils m'ouvrent leurs portes sur leur univers. Et donc, j'allais dire, c'est pas parlant pour ce projet parce que j'ai pas fait de récolte de récits, mais en même temps, ce que j'ai adoré dans ce projet de Métamorphée, c'est que j'arrivais chez des gens que je ne connaissais pas et je passais une soirée entière avec eux. Donc forcément, toute la soirée, on discutait et c'était comme si je voyageais, en fait, à chaque... tous les soirs, j'allais dormir chez quelqu'un de différent. Et donc c'était un voyage humain, une vraie rencontre et puis une découverte d'un univers. Donc voilà, je pense que ça... Je pense que c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à l'humain. Voilà.
Et pourquoi vous avez décidé de vous concentrer sur la ville de Rennes et les couples rennais?
Parce que j'y habite. Ça fait 10 ans que je suis à Rennes. Et puis c'est la ville que j'ai choisie pour poser mes valises. Et donc j'ai aussi un peu une histoire d'amour avec Rennes. Voilà, tout simplement.
Et est-ce que vous avez pu constater des particularités des couples rennais? Est-ce que vous avez un peu analysé?
Non, pas du tout.
Ok.
Non. Non, je suis allée dans un EHPAD et je pensais que j'allais récolter plein de belles histoires et en fait je me suis rendu compte quand même que pour pas mal de gens, ça reste un sujet très 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 intime et auquel on peut pas accéder. Donc voilà. Mais sinon non, j'ai pas encore analysé. Ce sera la prochaine émission.
Et justement, par rapport à cette intimité, comment on fait pour interroger les gens sur leurs histoires d'amour? Est-ce qu'il y a d'abord une confiance à gagner? Quel genre de questions vous commencez par leur poser?
Comme ce projet est en lien avec les tombées de la nuit, les personnes prennent rendez-vous, enfin s'inscrivent directement sur le site des tombées. En fait, quand ils viennent me voir, ils ont une histoire à me raconter. Donc en fait, j'ai très peu de choses à leur demander.
Okay. Vous les laissez dérouler?
Oui. Je les laisse dérouler. Et après, je peux leur poser des questions, enfin en fonction de ce qu'ils m'ont dit, etc. Je peux leur poser des questions philosophiques sur l'amour et sur la rencontre amoureuse et qu'est-ce qui s'y joue, etc. Mais sinon, non, ils ont, généralement, ils viennent, ils savent exactement ce qu'ils veulent me raconter, donc j'ai pas beaucoup de questions à poser.
Est-ce que chacune des histoires qu'on vient vous conter sont sélectionnées pour l'exposition ou vous sélectionnez vos préférés ?
Je pense que je vais, vu que là je commence à avoir beaucoup d'histoires, je pense que je vais sélectionner, je ne sais pas combien, mais en tout cas je vais pas toutes, j'aurais aimé pouvoir toutes les présenter, mais je ne pense pas que ce soit possible.
Et demain, de 11h30 à 16h à la bibliothèque de Rennes 2, il y aura une autre... Enfin, les personnes peuvent venir vous raconter votre histoire. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'on peut faire pour... Enfin, est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir par rapport à ça?
Alors, il y a des... Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu des créneaux assez larges. Donc, ce sont des créneaux de 45 minutes. Et donc là, les personnes se sont... Enfin, certaines personnes se sont déjà inscrites sur le site des Tombées de la Nuit. Mais comme généralement c'est plus court, eh bien n'importe qui peut venir se présenter. Moi, je laisse une feuille de papier pour qu'ils notent leur nom, prénom, si jamais je suis partie en entretien. Et voilà. Et donc l'idée, c'est que je remplisse. En gros, j'essaye de rester 20 minutes avec une personne. Voilà. Donc, qui veut peut venir se présenter demain. Et puis, si jamais je suis pas disponible, il y aura un petit papier crayon pour prendre rendez-vous le jour même.
Et donc, est-ce que vous avez déjà une date de finalisation de l'exposition ou est-ce que vous savez où ça se passera aussi?
Oui, l'exposition aura lieu en novembre. On n'a pas de date précise encore, mais ce sera au Hall en commun. Donc, ce sera annoncé ce sera annoncé prochainement, je pense. Voilà. Et puis, pour les personnes qui hésitent, il faut savoir que les témoignages sont anonymes. Et que donc je ne photographie pas les gens, les visages. Voilà, donc c'est complètement anonyme.
C'est juste une discussion.
Oui, c'est ça. Et donc c'est vraiment, je reviens encore à cette idée de raconter Rennes. Enfin, moi j'ai vraiment envie de montrer Rennes de manière collective, je ne sais pas comment dire, mais de manière sensible, mais que ce ne soit pas personnifié par des gens, par des visages, quoi.
Merci beaucoup.
Et après, moi j'ai une petite question complémentaire. Oups. Est-ce qu'il y aura un écho aux prochaines tombées de la nuit de cette exposition ou pas forcément?
Au prochain festival?
Ouais.
Pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé. Donc, donc on verra. Il y aura certainement une dernière permanence pendant le festival de cette année. Donc après novembre, il y aura l'expo. Donc au festival d'après, je ne sais pas du tout.
Ok, ça marche. Donc pour redire les jours et horaires pour venir vous raconter des histoires. Donc demain de 11h30 à 16h à la BU de Rennes 2. Le 4 février de 14h à 18h à l'Antipode. Ah, c'est passé le 4 février.
Oui, bah, c'est la dernière.
Demain.
Ouais, c'est ça.
Ok, bon bah voilà.
Après, si des personnes veulent absolument me raconter leur histoire, elles peuvent me contacter aussi sur le mail de À vos amours, que je n'ai pas en tête.
Ah, dommage. Bon, bah, il doit être sur Internet, quelque part. Sur le site des Tombées.
Il est sur le site des Tombées de la Nuit. Yes. Voilà. Mais sinon, oui, demain, c'est la toute dernière.
Toute dernière.
Ouais, c'est ça.
Ok. Bah, super. Bah, merci beaucoup d'être venu dans 6 heures avant minuit.
Merci à vous pour cette invitation.
6 heures avant minuit.
La prog de Syllab, tu l'aimes ou tu la quittes. Une fois par mois, la chronique Take It or Leave It d'Eva décortique notre programmation musicale. Et c'est maintenant.
Et what is going on today? Eh bah, c'est que ma chronique est sortie avant que nous ayons pu intégrer les 15 nouvelles chansons choisies la semaine dernière par le très cher comité prog de la radio Syllab. Désolée. Donc ça va être purement du spoiler là que je vous fais. Mais
c'est super. Prévenus,
c'est pas grave. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je ne comprends rien aux chansons qui ne sont pas les miennes. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas totalement l'essence des chansons, des histoires que je n'ai pas créées, qui sont de quelqu'un d'autre. Mais j'ai remarqué autour de cette table, on est tous attirés par ces histoires et comprendre ces histoires, que ce soit par la photographie ou alors la littérature avec Aglaé. Mm-hmm. Et nos profs de français, Aglaé, tu te rappelles, ils nous faisaient apprendre du Baudelaire et le sens caché des mots.
Un plaisir. Bon,
on ne sait jamais vraiment
oui, non,
ce qu'ils veulent dire.
On ne sait jamais.
Thank you. donnant un exemple en chanson, par exemple comme Auto-icône de Flora Hiberg qui est dans notre playlist. Pour la traduction, voilà, tu le fais à nouveau. Tu attaches un sens en feuilletant les archives de ce sentiment. Et donc c'est assez flou. Et le reste de la chanson est aussi assez flou. Les paroles, c'est beaucoup de descriptions telles que « You're rising like the summer sun », donc tu te lèves comme la lune d'été, ou alors « Pouring into the storm cloud brain », versé à l'intérieur du cerveau plein de nuages orageux. Donc on comprend pas très bien quel sentiment.
Tout le monde peut plus ou moins s'identifier.
C'est ça, il y a un peu un malaise, mais on sait pas c'est quoi. Donc globalement, bon, hein, on s'identifie à quelque chose, mais on sait pas trop quoi. Et à l'inverse, une autre des chansons de la programmation, La Nuit Jeu de Victor Solf, a des paroles très très claires. On comprend vraiment tout ce qui se passe dans sa tête.
Ce matin j'ai décidé que je m'aimerais comme j'étais, comme c'était. Le bon et le mauvais, ouais, je prendrais tout et dirais que la vérité sans les reflets. Quand la nuit je ne dors,
donc ici, il parle pas mal de sa relation avec lui-même, qu'il y a un trouble aussi à régler, peut-être des nuages orageux aussi dans sa tête, on ne sait pas.
Trouble du sommeil, visiblement.
Oui, bah c'est ça, il parle vraiment en parlant de ressasser, et il parle vraiment avec des mots et des verbes qui reviennent au verbe ressasser, donc c'est assez compréhensif ce qu'il dit. Et puis en fait, bah, j'avais une question pour mes amis autour de la table, pour notre invité également. Quand vous faites attention aux paroles, par exemple, est-ce que vous avez une préférence entre les paroles qui vont être vraiment abstraites, donc qui sont des métaphores ou alors des descriptions assez vagues pour pas vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de l'auteur, ou alors est-ce que vous préférez que ce soit des paroles qui décrivent exactement une situation, exactement un sentiment assez clair? What do you take or leave?
Réponse A. Quelle l'abstraction, moi. J'aime bien.
Ouais, moi aussi, je pense. Plutôt que tout soit très clair.
Bah, moi, les deux.
Est-ce que un exemple ou alors une explication?
Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est peut-être plus simple pour s'identifier quand c'est un peu plus vague.
C'est un peu plus global.
Moi, je trouve que quand il y a des concepts ou des mots ou juste un mot, bah, ça renvoie à un truc vachement plus fort, tu vois, et ça me met dans un sentiment ou dans un mood plus volubile que... Enfin, pas très terre-à-terre, et c'est ça que j'aime bien, quoi.
Ok, bah, j'aime bien aussi. Et donc, pour la team qui aime bien les paroles abstraites, j'ai d'autres codes, là, de la Radio C-Lab qui vont arriver. Problems de Skyfall, Breadcrumbs de Risley et A Little Different de Cat White. Voilà.
Notre ami Cat White.
Et sinon, un peu la team parole claire. Il y aura aussi 375 de Benjamin Epps ou T'es mon ami de Attention, le tapis va prendre feu. Incroyable comme nom.
On ne peut pas faire plus clair, là, je crois. Et en même temps, plus symbolique, je pense.
Oui.
Malgré tout.
Et voilà, quelques exemples, quelques titres qui pourraient vous inspirer. Exact.
C'est ça qui est bien, dans la prog des syllabes. Merci beaucoup, Eva. Un dernier petit mot avant de se quitter.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô? Allô?
La radio sauvage.
Ce soir, le répondeur de 6h avant minuit est vide. On ne peut pas toujours avoir des messages, bah, pour le coup, totalement abstraits comme celui d'hier. Hein. Mais sachez que vous pouvez nous laisser un message vocal, nous dire ce que vous avez pensé de nos chroniques, de nos reportages, de notre émission, donner des idées de sujets, faire passer un message, tout ce que vous voulez. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Votre message sera diffusé à la fin de cette émission. Merci Gwen pour la technique et à demain.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.